Oui, c'est seulement la grâce de Dieu que nous avons reçue d'être rachetés par le sang de l'agneau. Et notre désir, nos pensées sont tournées vers celui qui nous a rachetés au prix de son sang précieux. Et nous explosons de reconnaissance. Nous voulons nous lever et lire quelques passages de ce psaume connu, les cinq premiers versets, le psaume 103. Les cinq premiers versets du psaume 103. Ensuite, le frère Borg priera avec nous. Mon âme loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Mon âme loue l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Nous voulons maintenant ensemble prier. Père céleste, par ta parole, tu nous as appelés à louer ton saint nom et à ne pas oublier ce que tu as fait de grand en nous. Père céleste, nous sommes ce soir ici, dans ta présence. Nous te demandons, viens par ton Saint-Esprit parmi nous. Parle par ta sainte parole. Produis la foi pour que par notre foi nous puissions t'honorer et que tu puisses parmi nous te manifester. Accorde à notre frère la grâce d'apporter à ton peuple ce soir ta parole et accorde-nous la grâce pour écouter, pour croire et pour comprendre. Nous te remercions de tout notre cœur. Sois parmi nous et secours chacun individuellement. Que tu puisses guérir toutes les maladies et ôter toutes les douleurs qui peut-être seraient parmi nous ce soir. Mets une fin à toute la détresse et manifeste-toi par ton Saint-Esprit. C'est notre prière à tous dans le saint nom de Jésus-Christ.
Amen.
Amen. J'entends tout de suite « Crois seulement, crois seulement ». Je l'aime. Chantons le ensemble.
Nous
disons tous Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons vraiment le grand privilège d'être rassemblés au nom du Seigneur et d'écouter sa sainte et précieuse parole, de la croire et de la recevoir révélée et de la mettre en pratique. On nous a déjà souhaité à tous les bienvenus. Nous avons aujourd'hui de la visite de la Finlande, des républiques de la Tchèque, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Roumanie, de la Grèce, de l'Autriche, de la Suisse, de l'Italie, de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, du Chili, et maintenant, ceux que j'ai oubliés peuvent me le faire savoir. De l'Inde? Oui, bien sûr. Lève-toi, s'il te plaît, frère Masha. Ça, c'est notre bien-aimé frère de l'Inde. Jamel Masha. Que Dieu te bénisse. Tourne-toi pour que tous te voient. Oui, que Dieu te bénisse. C'est notre bien-aimé frère du nord de l'Inde, de cette région connue appelée Punjab. Ça, c'est la province. Ensuite, nous avons beaucoup de salutations. Beaucoup de salutations. Du Pakistan, de Madagascar, de Cotonou le Bénin, des salutations du frère Weinström, de Montréal, de l'Oural, de Moscou, la Moldavie, de l'Ukraine, de la Russie blanche, du Kenya, du Rwanda, et du Congo. Ensuite, il s'ajoute encore de Denver, le Colorado, aux États-Unis, de Népal, du Cambodge, et ensuite de l'Inde, encore des salutations, et ensuite de l'Italie, des salutations, le frère David envoie des salutations. Le frère Étienne Genton envoie des salutations. Ensuite, nous avons des salutations de Johannesburg, des salutations de Lyon, des salutations de Kinshasa, je l'ai dit tout à l'heure déjà, de Kinshasa, des salutations de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et ensuite de Montréal, Canada, et Nous saluons aussi d'ici tous nos bien-aimés frères et toutes nos bien-aimées sœurs. Je viens de voir tout de suite encore un mail de Nairobi, de Cuba. On nous salue fraternellement de partout. Nous avons des frères et des sœurs dans le Seigneur avec lesquels nous sommes liés. Ensuite, nous avons aujourd'hui le grand privilège, et je suis heureux de ce que le frère Didier aussi soit parmi nous. Frère Didier, voudrais-tu, s'il te plaît, te lever? Où est le frère Didier? Oui. Avec frère Didier, j'étais à Port-au-Prince, et oui, la capitale de Haïti, c'est Port-au-Prince, et tel que dans cette feuille avec les photos et un petit exposé, nous l'avons décrit. Prenez cette petite feuille avec vous, et je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, nous avons et annoncer à l'avance les réunions qui auront lieu à Berlin le dimanche de la Pentecôte. Si Dieu le veut, quand nous serons revenus d'Israël, nous voulons, n'est-ce pas, une fois par an être à Berlin et ainsi aussi soutenir tous nos frères et sœurs du Nord et de l'Est de l'Europe et du Centre de l'Europe. Et nous voulons de tout notre cœur, invitez tous à ces réunions qui sont annoncées sur cette feuille. Vous pouvez la prendre à la fin. Et nous avons aussi sur cette feuille mis deux photos que nous avons ramenées de Haïti, des dernières réunions. Et s'il vous plaît, écoutez bien. La ville et le pays sont très touchés. Combien plus de 200 000 morts, je ne sais pas exactement le nombre, mais sur le chemin de l'aéroport à la maison du frère, on voyait à droite et à gauche quelques maisons qui sont tombées, qui se sont écroulées, et bien sûr, et construit faiblement, mais quand nous sommes arrivés à la maison de Dieu, au bâtiment où il n'avait même pas une fissure, et tout de suite à côté, à droite et à gauche et derrière, c'était que de la cendre et des ruines. Mais le bâtiment de la réunion est resté debout sans fissure, et le bâtiment du Seigneur n'est pas vrai, frère Bélier, c'est la vérité. Oui, amen, amen. 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 Vous avez entendu son amen. C'est la vérité, c'est vrai. Et vous pouvez voir la salle. Telle que j'avais prêché auparavant deux fois déjà, et maintenant c'est la troisième fois. C'est merveilleux de ce que on peut voir ça ainsi, tel que nous l'avons écrit ici. Je l'ai devant moi en français. Exode chapitre 2, Exode chapitre 12, verset 13. Dès qu'il est écrit, Haïti a le plus de croyants dans les Caraïbes qui croient et qui ont reçu la parole de l'heure. À peu près plus de 6 000 personnes qui sont baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a 20 différentes églises éparpillées partout sur le pays. Ensuite, nous avons 300 familles qui sont concernées, et ces 300 familles-là, nous les avons aidés avec 15 000 euros, et Dieu voulant, si cela est nécessaire, nous allons continuer à les aider. Ce sont donc là-bas aussi les régions des Caraïbes. Et ce sont nos frères, justement, de la langue française qui portent la parole aussi là-bas, qui la portent et qui la dispense dans ce temps sérieux de la fin. Alors nous remercions le Seigneur de tout notre cœur qui a aussi détendu sa main sur le tremblement de terre, et je le répète encore une fois, quand on est devenu témoin oculaire de ce que tel qu'il est écrit dans Exode 12, verset 13, il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai. Et on peut voir ça de nos yeux, de ce que vraiment nos frères ont été gardés malgré tout. Le frère Didier, encore, lève-toi, encore pour que tous puissent te voir, lève-toi pour que tous puissent savoir que nous deux, nous étions là-bas et que nous avons vu ça de nos propres yeux. Et tu as sûrement encore beaucoup de salutations, tu as ramené plus de salutations que moi, de tous les frères et les sœurs de Haïti. En revenant avec le frère Didier, en allant avec le frère Didier, nous avons, avant d'arriver à Haïti, nous avons visité deux réunions en Martinique. C'était la première petite île avec à peu près 400 000 habitants. Et nous avons eu aussi la possibilité là-bas, nous avons saisi l'occasion de parler pendant une heure à la télévision et prêcher la parole de Dieu. Et ensuite, nous avons continué. Et notre frère André de Montréal était mon traducteur. Et lui aussi, il vous remet à tous les salutations. Nous regardons en arrière à des jours merveilleux que le Seigneur nous a accordés. Ensuite, bien sûr, ça a continué. Le voyage a continué par les différentes îles jusqu'à Miami et ensuite à Lima, Pérou. Et là-bas aussi, nous avons eu des jours bénis et une réunion de 2 heures complètes à la télévision de manière que nous avons pu dispenser la parole du Seigneur et nous sommes simplement très, très reconnaissants pour tout ce que Dieu fait dans le présent, pour toutes les portes ouvertes et pour tous les cœurs ouverts qui reçoivent la parole. En relation avec le tremblement de terre, je voudrais encore insister et dire que nos frères n'ont pas été détruits. Ils ont été gardés malgré tout et que ce soit les maisons ou bien des rues ici et là, bien sûr, ont des fissures et ont été abîmées. Il y a des dégâts énormes, bien sûr, dans la ville. Et je crois que c'était aussi en Ascension ou bien à Conception. Et là aussi, bien sûr, partout, il y a des dégâts énormes. Mais tant que nous pouvions, n'est-ce pas frère Graf, tant que nous pouvions recevoir, et frère Helmut Miskis aussi, des nouvelles à nos frères, rien ne s'est passé aussi au Chili. J'espère que pas trop l'ont appris, mais nous avons de la visite de l'Amérique du Sud et nous voudrons vous souhaiter particulièrement les bienvenus. Nous ne disons aucun nom et nous ne demandons pas non plus de vous lever. Sentez-vous simplement bien parmi nous. La parole de Luc 21, je voudrais en relation avec cela encore l'avoir lu. Luc chapitre 21, à partir du verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Pas seulement des tremblements de terre, mais de grands tremblements de terre. Et les sondeurs attendent le tremblement de terre qui aura lieu à la côte ouest des États-Unis. Et frère Branham l'a dit avec toute la clarté que la côte ouest des États-Unis s'écroulera dans la mer, se détachera complètement et s'écroulera dans la mer, s'engloutira dans la mer, et cela avant le retour du Christ. Nous n'attendons pas cette catastrophe, nous n'attendons pas cela, qu'on l'attende ou pas, nous n'attendons pas qu'un tremblement de terre, ou bien que des famines viennent, ou bien que des guerres, tout cela se passe tel que cela, dans la prophétie biblique, tel que cela a été annoncé à l'avance. Bon, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi et je voudrais simplement aussi prendre votre temps pour regarder en arrière avec vous dans ces 48 ans passés. Mais avant que je le fasse, je voudrais demander à nos deux sœurs qu'elles puissent nous lire et nous chanter à tous ce cantique. Ce texte m'a été une fois dédié en regard avec le chemin difficile que parfois des hommes de Dieu ont à entreprendre. Est-ce que les deux sœurs sont là? Alors qu'elles puissent maintenant chanter ce texte. J'espère que cela va réussir. Nous n'avons pas de notes là-dessus. Et je voudrais le dire rapidement. Que tous les frères dans le ministère se sentent bien à la maison. Ce frère Müller, frère Daniel, frère Graf, frère Maché, tous les frères dans le ministère, frère Didier, tous les frères, sentez-vous bien. Que on voit tout le monde, ne vous sentez pas inaperçu, sentez-vous bien tous. Le frère, où sont les frères? Le frère John et tous les frères, sentez-vous tous bien parmi nous. Et que Dieu nous bénisse tous ensemble.
Gottes Wege mir seltsam rätselhaft und schwer und in die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorge mehr. Mir traurig schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wird traurig schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn mir zu hoch des Herrn Gedanken, zu tief der Brunnen seiner Huld, wenn alle Stützen haltlos wanken, die Kraft mir fehlt und die Geduld, wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei bangen Tränen reich erwacht. Ein Glaubensfünklein, der noch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei banger Tränen reich erwacht. Ein Glaubensfünklein, der noch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelöste Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt. Dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Hände legen sacht und dieses Sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Hände legen sacht und dieses Sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, das Gut, die Wege, die er weist. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, gingst durch kalte, finstre Nacht. Halt fest an diesem selgen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, gingst durch kalte, finstre Nacht. Halt fest an diesem selgen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht.
Danke vielmals. Danke vielmals.
Merci, merci beaucoup.
Es gibt in der Tat,
il y a réellement des jours dans nos vies qui ont une signification qui vont au-delà des jours ordinaires. Il y a des jours dans les nations, il y a des jours dans le monde qui ont une signification particulière. Et quand nous regardons dans l'histoire du salut, il y a eu aussi des jours particuliers, des jours dans lesquels quelque chose s'est passé, qui est allé au-delà des limites du temps et qui était avec un objectif précis lié à l'éternité. Nous pensons à l'appel d'Abraham. Nous pensons à ce que Moïse a expérimenté avec Dieu. Nous pensons à tous les prophètes que Dieu connaissait, qui connaissaient Dieu particulièrement, personnellement, et qui ont reçu de lui un ordre et qui l'ont exécuté. Nous pensons particulièrement à ce que Dieu a fait dans notre temps. Et je me suis ici écrit quelques notes le 11 juin 1933, un jour particulier dans l'histoire du salut, alors que frère Branham avait été chassé de l'église baptiste et avait commencé sa première évangélisation libre, et que des centaines de personnes ont été baptisées dans le fleuve Ohio. Et là, pendant le baptême, quelque chose d'extraordinaire, d'inhabituel s'est passé. La plupart le savent, et ceux qui ne le savent pas devraient l'écouter aujourd'hui. Alors qu'il était en train de baptiser la 17e personne, La lumière surnaturelle vint, et frère Branham disait toujours de nouveau que c'était la même lumière, la même colonne de feu dans laquelle le Seigneur avait apparu à Moïse autrefois, et c'était la même colonne de feu qui conduisait le peuple d'Israël. C'est la même qui est descendue dans notre génération, et c'est de cette lumière que le Seigneur a dit, tel que Jean Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Et personnellement, en avril 1966, dans le tabernacle Branham à Jeffersonville, Indiana, USA, entre 10 et 12 personnes, j'ai rencontré des frères et des sœurs qui, en 1933, étaient présents quand cette lumière surnaturelle est descendue et d'elle une voix a retenti. Car Billy Powell, le fils de frère Branham, demandait est-ce qu'il y aurait des témoins qui sont là, qu'ils puissent se lever. Et alors, ils se sont levés, et c'est ainsi que j'ai pu savoir qui est-ce que c'est et aller après à eux. Et si ensuite, je pense à un jour particulier, c'était le 7 mai 1946, alors que l'ange de l'Éternel à 23 heures le soir vint à frère Branham. La pièce dans laquelle il était a été illuminée de lumière. Et dans cette lumière, l'ange a apparu. Et frère Branham s'est effrayé. Il s'est levé et il lui a été dit, ne crains pas, car j'ai été envoyé, je suis envoyé à toi de la présence de Dieu, pour te donner le mandat, l'ordre. Et c'est ainsi que l'ange a révélé à frère Branham dans tous les détails ce qui allait se passer dans son ministère. Et c'est ainsi qu'il lui a dit, tel que à Moïse, il a été donné deux signes. C'est ainsi que deux signes te seront donnés et il te sera donné un don de guérison divine et tu prieras même pour des rois. Et Dieu le Seigneur sera avec toi. Et ensuite, il n'y a pas longtemps, après cet événement, l'appel du roi George de Londres a été reçu par frère Branham et il lui a été demandé qu'il puisse venir pour prier pour lui. Et c'est ainsi qu'en allant en Finlande, il a fait une escale à Londres pour prier pour le roi George. Tout ce que Dieu a dit, aussi les deux signes, se sont accomplis et pas seulement des milliers, mais des centaines de milliers sont témoins de ça. Les meilleurs témoins, c'était des frères et des sœurs, frères et sœurs Dorthel Linse, c'est une née allemande appelée Schimpf, et le frère Dorthel Linse, cet homme qui a écrit ce livre, William Branham, un homme envoyé de Dieu. Et ce livre-là a été réellement traduit dans plusieurs langues, dans beaucoup de langues. Et c'est ainsi que le ministère de frère Branham, en fait, est devenu connu, a été connu. Et même, revenons encore à ces deux autres grands événements, c'est-à-dire ce qui s'est passé le 20 janvier à Houston, Texas, dans les années 1950. 8000 personnes étaient rassemblées. Il y avait eu une grande discussion avant que frère Branham vienne sur la plateforme. Et ensuite, cela s'est passé qu'il disait, je n'ai pas besoin de rendre témoignage de moi. Le Seigneur qui m'a envoyé, lui-même rendra témoignage pour moi. Tous nous connaissons ce témoignage. Tous nous connaissons que Dr. Georgie Lacy, le 29 janvier, a confirmé qu'il n'y avait pas de double lumière, de falsification sur cette photo prise, mais que la lumière surnaturelle était réellement sur la tête de Frère Branham. Sinon, elle n'aurait pas pu être frappée par l'appareil photo, oui. Dieu lui-même a rendu témoignage que l'ordre, le mandat qu'il avait reçu n'était pas constitué en des paroles qu'un homme avait quelque part comme ça inventé, mais que il avait reçu un appel authentique divin, surnaturel, un mandat, un ordre en relation directe avec l'histoire du salut de notre temps. Et c'est ainsi que nous avons ensuite le 28 février 1963, alors que, tel que frère Branham, le 28 décembre, l'avait vu déjà en 1962. Le 28 décembre 1962, il avait vu ce qui allait se passer le 28 février 1963. Il avait vu sept anges lui apparaître et sur une montagne. Et alors, les photos ont été prises lorsque ce nuage est apparu. C'est exposé dans le magazine Le Science et aussi par Dr. James McDonald, qui a écrit tout cet exposé de ce qui s'était passé là-bas. Et tout était décrit, même les combien de kilomètres était ce nuage de la Terre, tout est décrit dans tous les détails. Et ensuite, frère Branham vient avec ce témoignage disant qu'il lui a été dit, retourne à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les sept sceaux est arrivé. Donc c'était un jour particulier. Et ensuite, ont suivi les jours particuliers du 17 jusqu'au 27 mars 1963. Et là, frère Branham disait que du 17 au 27 mars, chaque après-midi à 14 heures, cette lumière surnaturelle venait dans la chambre dans laquelle il était, et que le sceau sur lequel il devait parler le même soir lui était révélé à 14 heures l'après-midi. Je mentionne ces choses pour la chose suivante. Cela nous diffère de tous ceux qui, dans le christianisme, se trouvent dans différentes directions de foi. C'est-à-dire, nous avons la grâce de croire ce que Dieu a déterminé pour cette époque et ce que Dieu, et nous avons la grâce d'avoir part à ça. Maintenant, cette partie courte qui m'a été accordée par Dieu le 11 juin 1948, alors que frère Branham, après notre entretien, 1958, après notre entretien, frère Branham me disait, frère Frank, avec ce message, tu repartiras en Allemagne. En 1958, j'avais déménagé complètement au Canada et nous appartenons à ces 13 millions qui avaient été chassés de l'Est, qui avaient quitté pour toujours leur maison, et c'était donc ma nouvelle demeure. Et la première fille, Hospita, Et fut né en 1959 au Canada. Et je conduisais la meilleure voiture qu'on pourrait conduire là-bas. Et n'est-ce pas une belle Ford avec un toit blanc? J'étais à la maison au Canada. Et les choses allaient bien pour moi comme un prince. Et ensuite, vint ce 11 juin 1958, et frère Branham disait, avec ce message, tu repartiras en Allemagne. Ça, c'était le plus grand sacrifice que, dans le domaine naturel, j'ai apporté dans ma vie. Mais Dieu a conduit les choses ainsi, a voulu les choses ainsi. Là-bas, jamais j'aurais pu exécuter le mandat. Je devais revenir en Allemagne pour ici exécuter le mandat, l'ordre que le Seigneur m'avait donné. Et ensuite, bien sûr, suivi le 2 avril 1962, et je pense devoir dire le jour le plus merveilleux pour moi et qui est le plus lié avec l'histoire du salut ou bien alors l'expérience que le Seigneur m'a accordée. Et cela a le droit d'être encore dit ici une fois pour ceux qui connaissent déjà notre histoire et ou bien alors qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Mais en 1961, c'était une année particulière. C'était la crise de Cuba. Il y avait la crise à Berlin. En août 59 et 58, il y avait eu des chars des différents pays, donc de la Russie, qui se tenaient là en face l'un de l'autre. Et l'Allemagne, il y avait le président Kennedy qui disait, je vais faire de Berlin un exemplaire. Et nous remercions simplement Dieu de ce que rien ne s'est passé, mais tous, nous ne savions rien de ce qui aurait pu se passer, de ce qui se passerait. Et ensuite, justement, suivi le 2 avril, où il a été dit de vous emmagasiner de vivres et de nourriture, car il y aura une grande famine qui viendra. Et que je dois encore le dire. Nous avons donc emmagasiné des aliments naturels, donc des pommes de terre et de la farine, tout ce dont on a besoin pour vivre. Et rien n'est arrivé. Il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu de famine. Mais j'ai dit au Seigneur, je ne peux plus vivre. Je ne peux plus prêcher. Ce n'est pas possible. Car tu as parlé audiblement et tu as dit qu'il y aura une famine qui viendra. Et elle n'est pas venue. Et ensuite, alors, vint un frère de Hilton. Tous connaissent bien cette ville, Hilton. C'était un homme d'affaires. Son nom était Helmut Paschke. Et il m'a apporté 1000, je ne sais pas combien de centaines de légumes. Et à l'époque, ça coûtait moins cher là-bas. Et quand il est parti, alors j'ai pensé, ce frère est venu, il m'a donné de l'argent donc dans la monnaie de son pays. Et donc je suis allé au bureau de voyage pour leur demander si ce montant suffit pour entreprendre un vol aux États-Unis. Et c'est ainsi que j'ai entrepris ce voyage en décembre de l'année 62 à frère Branham. Et alors il m'a dit, tu as mal compris ce que le Seigneur t'a dit. Tu pensais qu'il y aurait une famine naturelle et vous êtes emmagasiné de vivres naturels. Mais Dieu enverra une famine d'écouter sa parole. Et cette nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce temps. Alors il a expliqué les explications rapidement, un peu. Ensuite il a dit complètement à la fin, attends avec la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Je dis ces choses très rapidement et j'espère que cela n'est pas ennuyant pour vous. Pour moi, elles ont de tels jours, de telles expériences, sont d'une très grande signification. Ce sont des pierres précieuses sur le chemin avec le Seigneur. Ensuite, suivi décembre 65. En décembre 65, le 31 décembre. Et ça, je peux le dire ici. Mais c'était à l'époque où, entre 23h et 24h, le 24 décembre 1965, j'avais vu déjà Frère Branham, habillé comme moi en costume, monter sur un nuage. Et je lui ai dit dans cette vision, Frère Branham, tu n'es pas le Fils de l'homme. Pourquoi est-ce que je te vois monter sur cette nuée? Et je ne savais pas que c'était exactement le temps où il était en train de passer du temps et à aller dans la gloire. Et ensuite, bien sûr, vint le 10 avril
66,
et c'était l'ensevelissement de l'homme de Dieu, et ça je l'ai dit plusieurs fois, cela a sa place ici. Je n'ai jamais tant pleuré dans ma vie que dans ce jour, le 11 avril 1966. Je ne pouvais pas comprendre que Dieu reprenne un tel homme de Dieu avec un tel ministère. Et j'ai demandé au Seigneur dans la prière, comment est-ce que l'Église épouse pourra être perfectionnée, achevée sans ce ministère? Seigneur, dis-moi, comment? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Tout ce qui s'est passé à moi, pour moi, c'était tout un monde qui s'était écroulé. Oui. Et ensuite vint le soir. Le soir, le 11 avril 1966. Maintenant, ton temps est arrivé de distribuer la nourriture et d'aller de ville en ville pour prêcher la parole. Vous savez que j'avais beaucoup de chance dans la vie. Pendant plusieurs années, depuis mon retour jusqu'à 1966, j'avais travaillé pour l'État allemand. J'avais eu une très bonne position, donc en tant que civil, à l'OTAN, donc je connaissais tous ces généraux et avec ces hommes politiques, etc., ces militaires et ces... Et vous savez, ce qui s'est passé après ce soir de 1966, le 11 avril, j'ai démissionné. La première chose que j'ai fait en revenant de l'ensevelissement de Frère Branham, c'était de démissionner, de donner ma démission, et j'ai commencé à porter le message. Ça, c'était aussi fait dans la foi. Je n'ai même pas parlé avec moi ou bien avec Dieu. Je l'ai fait parce que je devais le faire. Je n'ai pas consulté la chair et le sang. Et si aujourd'hui, je regarde en arrière, durant tous ces jours et toutes ces années dans lesquelles Dieu a conduit, comment est-ce qu'il a ouvert des portes? On pourrait, pendant des heures, en parler. Mais je mentionnais justement tout cela pour vous dire que pour moi, le 2 avril 1962, n'est pas seulement comme ça une expérience privée avec Dieu, mais c'est la continuité de ce que Dieu nous a accordé par le ministère de Frère Branham. C'est la continuité. Je n'ai pas de propre enseignement, je n'ai pas de propre message. Et Frère Branham nous a ramenés à la parole, à Jésus-Christ, au plein évangile, à tous les enseignements bibliques. Et ça, c'est le rétablissement auquel nous croyons que Dieu lui-même exécute avant que le retour de Jésus-Christ ait lieu. Bon, mes bien-aimés, seulement quelques versets bibliques en regard à ce jour, ou bien alors au jour aussi de hier, le vendredi de Pâques. Nous vivons dans un pays dans lequel le vendredi de Pâques est un jour férié depuis la Réformation. C'est un jour férié. On a compris ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Ou bien alors ce qui s'est passé, oui, sur la croix à Golgotha. Et pourquoi est-ce que cela était nécessaire que cela se passe de la part de Dieu? Et tous nous rappelons, tel que nous avons chanté aussi des cantiques concernant ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Je voudrais aussi, puisque nous aurons le souper, la Sainte Cène ce soir, le souper et le lavage des pieds, je voudrais lire quelques versets bibliques en commençant avec l'épître aux Colossiens. Colossiens, le premier chapitre. Ici, nous avons le verset 10. Colossiens, chapitre 1, verset 19, jusqu'au verset
22.
Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Si Paul écrit dans Actes des Apôtres qu'il a prêché tout le dessein de Dieu, car ici en allemand, dans Colossiens 1, verset 19, c'est écrit, car c'était le dessein de Dieu, le conseil de Dieu, de faire habiter toute la plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Le verset 21 et 22, il relit. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Une rédemption parfaite et entière nous a été accordée par Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Lisons avec joie le verset 23, encore une fois. Si du moins, nous, toi et moi, au verset 22, pour vous faire paraître devant lui, saint, autrefois, il relit la fin du verset 21. Il vous a maintenant réconcilié, donc autrefois, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, irréprochable. Cela n'a pas lieu par toi, mais par lui. C'est par son sang. un pardon parfait, entier. Et si nos péchés étaient noirs comme le cromasie, ils doivent devenir blancs comme la chair. Ils sont devenus blancs comme la chair. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, ils sont devenus blancs comme la neige. Dans Actes des Apôtres 2, nous avons ce que Pierre disait. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 23, chapitre 2, verset 23, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Cela s'est passé à cause de toi. Cela s'est passé pour toi, pour moi, sans considérer qui avait à exécuter l'œuvre. Cela devait s'accomplir. Le verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Loué et exalté soit notre Seigneur. Il n'est pas seulement mort. Il est allé dans les endroits inférieurs de la terre, en enfer. Il a rendu captifs les captifs. Il a vaincu la mort, l'enfer, Satan. Et il est ressuscité et il a dit, je vis et vous devez aussi vivre. Et le Seigneur, en tant que le ressuscité, a apparu après sa résurrection à ses disciples et il est resté 40 jours avec eux. Et il a parlé avec eux des choses concernant le royaume de Dieu. Il leur est apparu pendant 40 jours. Et comme nous le savons, il est écrit dans Ésaïe 53, par ses maîtrises, nous avons reçu la paix et la guérison. Dans Romains, le chapitre 4, nous pourrions aller de chapitre en chapitre et de verset en verset. C'est ainsi que les paroles de notre Seigneur sont précieuses et touche le noyau des choses qui concernent le dessein du salut et l'histoire du salut. Romains, chapitre 4, ici nous lisons le verset 25. Romains, chapitre 4, verset 25. Qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Cela s'est accompli. Cela est accompli comme dans Jean 19, cela est décrit. Une pleine rédemption, un plein rachat. S'il vous plaît, acceptez ce que Dieu en Christ, notre Seigneur, par sa grâce, nous a accordé. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, l'apôtre décrit au verset 3 et 4, « Ich habe euch nämlich an erster Stelle » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1, « Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, il y a à partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant toute chose, avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. tout s'est accompli selon les Saintes Écritures, selon ce qui avait été annoncé à l'avance. Éphésiens, premier chapitre, nous avons ce que Paul, ici, témoigne. Éphésiens, chapitre 7, et pardon, Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9, Éphésiens 1, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et les desseins qu'il a formés en lui-même avant la fondation du monde, il l'exécute. Et dans ce temps, par sa grâce, nous pouvons l'expérimenter.
Lesen wir noch ein paar Stellen und gehen dann zum Abendmahl über.
Lisons encore quelques versets et passons donc après au, à la Sainte Cène. Dans Galates, chapitre 2, une écriture que nous avons souvent lue, souvent pensé à cela, qu'elle puisse s'accomplir en nous.
Galates,
chapitre 2, verset 19.
Ich meinerseits dagegen bin durch das Gesetz,
car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu.
Ich bin mit Christus,
j'ai été crucifié avec Christ,
gestorben, um fortan.
Et si je vis, donc il dit auparavant, je suis mort à la loi afin de vivre pour Christ, pour Dieu, j'ai été crucifié avec Christ. Versets 19 et 20. Bien, frères et sœurs, ça aussi, dans la foi, nous pouvons l'accepter. Plus notre moi, plus nos pensées, plus ce que nous voulons, mais les pensées de Dieu et ce que Dieu veut, c'est ça qui doit être mis en pratique dans nos vies. Et ensuite, au verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis. Est-ce que nous pouvons tous le dire? Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi-même qui... Alors, c'est qui vit alors? Parce qu'il dit qu'il vit. Si ce n'est plus toi qui vis, c'est qui vit alors? Continuons à lire. Lisons encore. Et si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il vit sa vie par nous. Et les pensées de Dieu et les attributs, la nature de Dieu sont manifestées par nous. Par nous. Ne nous décourageons pas. Nous avons la confiance que Dieu, lui, il fait toutes choses parfaites, merveilleuses. Et si ce n'est pas encore comme ça dans ta vie, cela peut devenir comme ça ce soir. Ce soir, ça peut devenir comme ça. Dieu peut faire de grandes choses en nous tous. Par la puissance de son sang, de sa parole et de son esprit. Mais lisons dans la foi, encore une fois, tous de tout notre cœur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, pour que je puisse me donner entièrement à lui, pour que il puisse vivre sa vie par nous.
Verset 21.
Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Il y a beaucoup de versets bibliques que nous pourrions lire qui font mention de ce qui s'est passé pour nous sur la croix à Golgatha. Un don, un cadeau du Dieu Tout-Puissant. Mais il faut que ce cadeau-là soit reçu, soit accepté. Il faut qu'il soit expérimenté personnellement. Pour tous ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas encore ainsi de manière personnelle expérimenté la grâce de Dieu. Je voudrais d'Ésaïe, le premier chapitre, lire le verset 18 jusqu'au verset 20. Ésaïe, le premier chapitre, verset 18 jusqu'au verset 20. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. C'est une promesse que Dieu a donnée dans l'Ancien Testament, mais qui s'est accompli par ce qui s'est passé sur la croix à Golgatha. Verset 19, nous demande, exige-nous l'obéissance. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ensuite suit la rébellion et la résistance de ceux qui ne croient pas. Le verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Est-ce que nous devions encore lire la prière de repentance de l'homme de Dieu David? Psaume 51. Ici, l'homme de Dieu, à partir du verset 7, a fait la confession suivante. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ensuite suit la prière intime profonde. Purifie-moi avec l'hysope. L'hysope avait été plongé pour asperger le sang sur l'autel, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Par Golgotha, cela est devenu possible. Comme si nous avions jamais péché, c'est ainsi que Dieu nous a présenté devant sa face. Verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie. et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Une prière d'un homme qui a reconnu ses péchés, qui se répand et qui vient au Seigneur et l'invoque. Et qui crie au Seigneur maintenant, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ça, tu ne le peux pas, ça, moi, je ne le peux pas non plus. C'est Dieu qui doit créer en nous un cœur pur. Bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu l'a créé par Golgotha, ce cœur pur, par le sang de l'agneau. Cela s'est accompli que Dieu nous a créé un nouveau cœur, un cœur pur par sa grâce. La deuxième partie du verset 12. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et ensuite, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ensuite, suit un verset qui est aussi, qui a une très profonde signification. Alors, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Si David avait vécu dans notre temps aujourd'hui, sûrement qu'on lui aurait dit, tu n'as plus le droit de prêcher. Tu n'as plus le droit de lire, de chanter des psaumes. Et maintenant il dit ici, ainsi j'enseignerai ceux qui ont fait ce que j'ai commis là, les mêmes transgressions, je les renseignerai tes voies. Je leur enseignerai tes voies. Imaginez-vous un tel verset. Personne vint et dit, David, tu n'as plus le droit d'enseigner les voies de l'Éternel à qui que ce soit. Tu n'as plus le droit de prêcher et de chanter des cantiques. Non. Alors, il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Lui s'était converti. Lui, il était revenu à l'Éternel. Lui s'était repenti. Et maintenant, il voulait aussi que tous ceux qui avaient commis les mêmes choses reviennent à l'Éternel et que les voies de l'Éternel leur soient enseignées. Allons dans Jean 13, aussi pour considérer la parole pour le souper du Seigneur. Je voudrais aujourd'hui particulièrement lire le Notre Père de l'évangile de Matthieu. Matthieu le chapitre 6. À partir du verset 9. Seulement pour votre orientation, dire la chose suivante. Au verset 6, il est écrit, peut-être que nous lisons aussi le verset 6 pour que tous puissent savoir que cette prière, en fait, doit être faite dans notre chambre et pas en tant que une pratique religieuse, un sacrement, bien quelque chose, des gens qui se récitent cela partout dans les églises. Ici, dans Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En public en allemand. Te le rendra en public en allemand. Est-ce que nous devrions nous lever à partir du verset 9 et le lire ensemble? et le recevoir de tout notre cœur. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que cela est ta prière? Est-ce que c'est vraiment ta prière à ton Père céleste? Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous les pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous pouvez vous asseoir. Ici, nous avons la pensée principale. Si nous prenons la Sainte Cène, le souper du Seigneur, nous pensons à ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Même là, notre Seigneur a dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon est la chose la plus importante dans la vie d'un croyant. De ne rien attribuer à qui que ce soit. Le meilleur, c'est de ne rien imputer à qui que ce soit. Et même si cela s'est passé, simplement pardonner tel que Dieu en Christ nous a pardonné. Simplement ne plus rien imputer et ne plus se rappeler de quoi que ce soit. Et ne plus rien penser à quoi que ce soit. Et il y avait une... Je voudrais peut-être encore, concernant le lavage des pieds, dire quelque chose. Je voudrais aller dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, verset 13. Particulièrement parce que dans beaucoup d'églises, le lavage des pieds est fait avant le souper du Seigneur. Et cela n'est pas biblique. Biblique, c'est que le lavage des pieds soit fait après le souper. Après, dans Jean 13, à partir du verset 1, vous pouvez lire, moi je lis seulement à partir du verset 4. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Tous nous connaissons tout le texte tel qu'il est écrit ici. Et ensuite, au verset 14, ou bien alors à partir du verset 14, nous lisons Jean 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. On n'a pas besoin d'interpréter ou bien d'expliquer quelque chose ici. Le Seigneur l'a dit. Il a institué ce souper, c'était donc le souper de la Pâque, et c'était pendant ce souper qu'il a pris du pain, qu'il a rendu grâce et qu'il l'a distribué. On peut le lire dans les trois autres évangiles. Et ensuite, il s'est levé, il a ôté ses vêtements, il a pris un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Il ne nous reste plus rien d'autre à faire que de le faire avec joie. Avec joie, ensemble, de fêter le souper et aussi de nous laver les pieds les uns les autres. Mais lié à cela, j'ai une demande. Que personne impose les mains à qui que ce soit. Car je crois que ça s'est passé. Imposer les mains, c'est seulement pour la guérison des malades. Quand il est écrit, ils imposeront les mains aux malades. S'il vous plaît. N'imposez pas les mains à un frère ou bien à une sœur comme si vous voudriez particulièrement bénir la personne. Non. Priez pour la personne. Bon, si comme ça, avec gentillesse, vous voulez comme ça, vous prosterner devant la personne, c'est pas, ou bien alors mettre la main sur son épaule. Mais ça suffit en fait de prier pour la personne, hein, et de dire, soit avec mon frère ou bien soit avec ma sœur. La prière de tout notre cœur exprime notre liaison dans l'amour les uns avec les autres. Pas comme ça, comme pour imposer les mains pour bénir la personne qui nous lave les pieds. Non, mais simplement de nous laver les pieds les uns les autres et de prier les uns pour les autres. Et de prier les uns pour les autres pour que Dieu puisse conduire nos pas. Conduire nos pas et que notre marche ait toujours lieu dans sa volonté, dans sa parole. Et quoi que vous voudriez dire dans votre prière pour la personne, vous pouvez l'exprimer dans votre prière pendant que vous lavez les pieds de la personne. Ou bien alors, pendant qu'on vous lave les pieds. Et c'est ainsi que le Seigneur reçoit tout ce que lui revient de plein droit. C'est important que tout ce que nous fassions, nous puissions le faire selon les Écritures. Simplement nous laver les pieds, et alors il y aura plus de temps de s'imposer les mains, bien le contraire. Mais simplement, avec reconnaissance, faire les uns à l'autre, l'un à l'autre, ce que le Seigneur a fait pour nous. Et aussi la parole de 1 Corinthiens, le chapitre 10, nous voulons la lire aujourd'hui, pas le chapitre 11, nous l'avons souvent lu, nous allons aussi toujours de nouveau le lire, mais nous lisons aujourd'hui de 1 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 16. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rampons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Oui, c'est la communion au corps de Christ, la communion au sein de Christ. Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Hier soir, nous avons eu à toucher ce sujet. Lévitique chapitre 23, Lévitique chapitre 25. Comment est-ce que les différentes offrandes ont été apportées? Nous avons parlé de ce grand jour de réconciliation dans Lévitique chapitre 25, verset 10, le jour de la réconciliation dans le peuple d'Israël. Était le jour le plus important de toute l'année. C'était dans le jour de la réconciliation que les trompettes retentissaient et que l'année de grâce, l'année du jubilé était proclamée ainsi dans tout le pays et tous pouvaient être libres et revenir à leur propriété. Et dans Luc, le chapitre 4, notre Seigneur, du prophète Esaïe, a lu. Et ensuite, je voudrais peut-être ouvrir ce verset d'écriture pour que tous puissent savoir exactement ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, le chapitre
4.
Ici, nous lisons à partir du verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit.
Esaïe
61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, le verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Nous aussi, nous prêchons le même évangile à tous ceux qui sont liés, à tous les opprimés, nous les renvoyons libres, à tous ceux qui sont prisonniers, nous proclamons leur délivrance. Et personne n'a besoin de rester captif du péché, lié par des liens, non, le plein évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, encore aujourd'hui, à la même puissance de Dieu qu'elle avait il y a 2000 années d'ici. Et c'est par la grâce de Dieu que nous voulons aujourd'hui, ensemble, expérimenter que la parole de Dieu a la même puissance et que l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, à nous, a pu produire toutes les choses pour lesquelles elle a été envoyée. La parole de la croix de celui qui est mort et qui est ressuscité. Nous pouvons aujourd'hui proclamer la victoire de Dieu sur le péché, sur la maladie, sur la mort, sur tout, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pensez à ces paroles dans 1 Corinthiens chapitre 10. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rampons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Nous formons un seul corps et Christ est le chef du corps, la tête du corps de l'Église. Que sa parole, que le plein évangile, le plein salut, la parfaite rédemption nous soit accordée aujourd'hui et que tous nos amis, tous nos frères et nos sœurs qui écoutent, particulièrement aussi nos amis à Edmonton, Canada, et aussi en Colombie-Britannique, partout où ils sont liés avec nous, particulièrement dans le monde, que Dieu, le Seigneur, par sa grâce, bénisse et en cet endroit, partout où ils sont réunis aussi, en ligne directe. Lui, le Dieu Tout-Puissant, il nous a accordé une rédemption entière, une justification entière, une pleine justification, un plein pardon, un plein salut. Ainsi, s'il y a quelque chose qui serait là, nous voulons nous pardonner les uns les autres, et pas seulement nous pardonner, mais pardonner tel que nous avons été pardonnés en Christ, pour que nous puissions de manière digne fêter le souper. À notre Seigneur et notre Dieu, soit l'honneur et la louange dans toute éternité. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever. Et aujourd'hui, nous demandons, pendant que le pain est brisé, est en train d'être brisé, nous voulons que la chorale chante un cantique et tous nous puissions persévérer dans la prière. Chantons un chœur jusqu'à que la chorale vienne. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus.
Frère Graf, Frère Ziegler,
kommt bitte
venez s'il vous plaît
vorne,
devant
das Brot zu brechen.
Pour briser le pain.
Bruder Fitus kommt auch noch.
Frère Fitus vient.
Ja, komm.
Amen, Alleluia, du hast
chanter encore avec toute l'église le refrain. Nous demandons maintenant au frère Didier de prier avec nous, de prier. Ensuite, nous allons arrêter la ligne en direct et souhaiter à tous les riches bénédictions du Seigneur. Et ensemble, les uns avec les autres et le Seigneur, nous allons tenir le souper.
Seigneur bien-aimé,
geliebter Herr,
nous venons à ta présence pour te dire merci pour Golgotha.
Wir kommen in deine Gegenwart, um uns für Golgatha zu bedanken.
Là seul, tu es allé pour nous sauver la vie.
Du bist für uns gegangen, um uns zu erlösen.
Sur la croix du calvaire, tu as tout accompli.
Du hast durch das Kreuz von Golgatha alles vollbracht.
Que ton nom soit élevé, Seigneur.
Möge dein Name erhöht sein, Herr.
Nous étions morts par nos offenses.
Wir sind gestorben mit unseren Übertretungen.
Loin de ta face.
In deiner Gegenwart.
Mais dans ta grâce souveraine, tu nous as appelés, tu nous as réconciliés.
Aber du hast uns durch deine Gnade berufen, uns mit dir versöhnt.
Que ton nom soit élevé, Seigneur, pour le pardon de nos péchés.
Wir danken dir, Herr, für die Vergebung unserer Sünden.
C'est ainsi que ce soir, Seigneur, nous nous souvenons de ta mort jusqu'à ce que tu viennes.
Wir haben heute begriffen, du bist gestorben und du wirst wiederkommen.
Permets qu'en prenant cette sainte scène, Seigneur, que nous puissions prendre notre bénédiction.
Mögen wir, Herr, begreifen, wenn wir das Mahl nehmen, dass wir es zum Segen nehmen.
Que chacun de nous, Seigneur, puisse marcher avec crainte et tremblement en ta présence.
Möge jeder von uns in der Furcht Gottes, in der Ehrfurcht vor dir wandeln.
Que nous puissions expérimenter, Seigneur bien-aimé, la véritable nouvelle naissance.
Wir möchten, geliebter Herr, in Wahrheit die Wiedergeburt erleben.
Amen.
Nous disons une fois de plus, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Und wir bitten dich nochmals, vergib uns, wie wir denen vergeben haben,
Amen.
Die schuldig geworden sind an uns.
Bénis, Seigneur, ce moment, bénis ce pain et bénis cette coupe.
Segne, ô Herr, segne das Brot, segne den Kelch.
Bénis tous qui participent, Seigneur.
Und segne alle, die daran teilnehmen.
Et bénis ton peuple, Père.
Und segne dein gesamtes Volk, Amen. Herr.
Nous comptons sur toi, Seigneur.
Wir rechnen mit dir, Herr.
Et nous croyons que tu nous as réellement acceptés dans ta présence.
Und wir glauben, dass du uns in deiner Gegenwart angenommen hast.
Bénis chacun au nom de Jésus-Christ.
Segne jeden Einzelnen im Namen Jesu.
Notre Sauveur et notre Rédempteur.
Unseres geliebten Herrn und Erlösers.
Amen.
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 Amen. Amen. Amen. Amen. Singen wir.